Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
La radio più ribelle.
Paniquez pas. Canu Info du vendredi.
Bonjour, il est 19h02, vous êtes sur Radio Canu et c'est l'heure des infos.
Et oui, pour commencer ce Canu Info du vendredi, on va commencer par une insert téléphonique pour savoir où est-ce qu'on en est la lutte des instits à Voix-en-Velin.
On vous passera ensuite un petit reportage sur le rassemblement pour la psychiatrie qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Puis on reviendra sur le rassemblement pour le droit à l'IVG qui a lieu hier.
On fera ensuite une petite interview avec une camarade Louise qui est avec nous dans les studios aujourd'hui sur les migrants et les migrantes.
Pour revenir un peu sur la politique plus large d'expulsion massive prévue par Macron.
On vous parlera ensuite de la loi du renforcement de la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure ou comment l'état d'urgence entre dans le droit commun.
Pour finir, par des assassinats qui se multiplient de la part des forces de l'ordre, notamment sur une personne abattue lors de l'expulsion de son logement dans le Var et du côté d'Aunay-sous-Bois également.
Et puis on finira comme toujours par le traditionnel agenda.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
smart. Avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Vous voyez bien, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous êtes en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes. En chantant résiste.
Et on résiste. Et actuellement, on essaie de mettre en place un dispositif technique sur Radio Canu pour joindre une camarade. Et apparemment, elle est à l'antenne. On va pouvoir y aller.
Marine, tu es en live. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui?
Et
où?
Allô?
Allô, Marine?
Allô, tu nous entends? Tout cela est très flou.
Non,
ben on va réessayer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous passer sans doute un petit reportage sur une manifestation soutien à la psychiatrie, je crois. Ouais, rien de plus ?
C'est ça.
Alors vous êtes venu de la Drôme à ce rassemblement aujourd'hui.
Oui.
Parce que vous travaillez en psychiatrie.
J'ai travaillé en psychiatrie, voilà, pour adultes. Depuis presque 40 ans, alors je peux dire que je suis une très ancienne travailleuse en psychiatrie. J'ai commencé à Lyon d'ailleurs, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, et je suis très souvent en lien avec les hôpitaux de la région de Lyon, le Vinatier, Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Cyr.
Et dans la Drôme, il y a eu des restructurations, il y a eu des changements ces derniers temps.
Donc on a diminué les budgets de la psychiatrie maintenant, je crois que c'est l'année dernière, déjà première chose. Et deuxième chose très importante, il y avait dans l'air depuis de nombreuses années un plan de restructuration de la psychiatrie qui a été complètement acté l'année dernière, enfin c'est en 2016. Donc on a fait des regroupements d'hôpitaux. Alors dans les années 70, on avait organisé la psychiatrie en secteurs. et on avait essayé de rapprocher les centres de soins de la population en quadrillant un peu tout le territoire, donc en petits secteurs avec des points de consultation pour que les gens soient bien suivis, puissent accéder aux soins psychiatriques, avec des lieux d'hospitalisation pas trop loin des habitations des personnes concernées. Et donc il y avait eu un petit peu d'éclatement, léger hein, quand même, des gros hôpitaux psychiatriques qui étaient asilaires avant les années 70. Donc c'est ce qu'on appelait la sectorisation. Et là, on a fait exactement le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on recentre toutes les structures qui avaient été rapprochées des populations, donc des petites unités, très intéressantes d'ailleurs, puisque les gens y allaient beaucoup plus facilement que dans l'hôpital psychiatrique très marqué. Donc on a tout regroupé dans une seule structure. On recompose les asiles, on reforme des asiles. Et par exemple, dans la Drôme Ardèche, il n'y a plus que deux opérateurs, nous dit l'Agence régionale de santé. Un qui est côté Ardèche et un qui est côté Drôme, avec alors des mouvements de personnel un peu... Enfin, ils ont tout redécoupé pour tout recentrer sur des grosses structures. Et donc le Nord-Drôme, il y avait des structures hospitalières. Au centre, vers Romans, il y avait des unités très intéressantes. Tout ça, c'est rattaché maintenant à un seul hôpital. Et pour nous, c'est vraiment un retour en arrière énorme. Pour les populations, c'est les éloigner des lieux d'hospitalisation. Quand on habite dans le Nord, c'est des départements très étirés. Quand on habite dans le Nord, il faut plus d'une heure pour aller visiter un patient de sa famille, ou si le patient doit sortir, enfin ça crée des problèmes. On recentre un peu les hospitalisations, donc ça n'engage pas tellement les gens à se faire hospitaliser, parce que c'est marqué hein, de la psychiatrie. Et puis on supprime de plus en plus tout ce qui est un peu... extra-hospitalier, c'est-à-dire les centres de consultation, on essaye de les regrouper, voilà, soi-disant pour faire des économies, mais en tout cas, enfin nous, ce qu'on estime, c'est que c'est plutôt une pensée administrative qui est globale en France et qui vise à tout concentrer, les donneurs d'heures, les directions, la gestion, voilà, on est dans ce mouvement administratif qui englobe tout. Que ce soit dans tous les secteurs, mais au niveau de la santé et au niveau de la psychiatrie, c'est un peu catastrophique.
Pour l'hôpital, pas pour quel hôpital ? Je suis pour l'hôpital, pas pour quel hôpital ?
Du coup, c'est depuis 2016 qu'il y a vraiment ce mouvement-là.
On a fait des manifestations, on a essayé de résister, puis c'était toujours pas tombé. La décision n'était pas totalement prise, donc on espérait. On a quand même essayé de lutter contre ça avec des petits moyens, et puis c'était quand même assez flou. Et en 2016, ça a été complètement décidé, donc il n'y a pas moyen de discuter, ni de revenir en arrière, ni de... Et donc les personnels ont été obligés de se plier à ça. Donc voilà, ça c'est l'organisation, on va dire, géographique et administrative, qui nous paraît, alors, en plus, très lourde, hein, parce que vraiment c'est lourd. Avant, il y avait une certaine souplesse hein, au niveau des organisations. Maintenant, on essaye de tout uniformiser, on protocolise, enfin voilà, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'adaptation même au style des populations qu'on traite. Hein. Enfin voilà, c'est l'uniformisation. Et puis, alors voilà, avec cette espèce de caractère très autoritaire et un peu systématisé. Alors ça, c'est pour l'organisation. Et puis le deuxième volet, c'est la diminution des moyens, surtout en Rhône-Alpes. On nous a diminué les budgets, ce qui fait que cette année, non seulement on a subi la restructuration avec des changements, même pour les patients. Hein. Il y a des patients qui ont été déménagés dans des... Alors par exemple, on va prendre l'exemple de Montélimar. À Montélimar, ils avaient organisé des locaux tout neufs, deux unités d'hospitalisation pour rapprocher de la population. Il n'y a pas très longtemps, il y a ça 5 ans, donc des locaux tout neufs. Et du jour au lendemain, on a déménagé les patients pour les remettre, pour les mettre à l'hôpital psychiatrique de Valence qui s'appelle le Valmont à Montélégier. Et les gens se sont retrouvés dans des chambres à 3 lits, dans des locaux sordides, alors qu'ils venaient d'unités très neuves. Enfin bon, vous voyez ce que ça peut produire sur les patients.
Lutte sociale à l'hôpital. Pour la santé.
Donc au niveau des budgets, en même temps que tous ces grands changements pour les patients, pour les personnels, on a diminué les budgets, ce qui fait qu'on ne peut même plus faire d'activité avec les patients. Donc on arrête un peu tout ce qui était activité thérapeutique parce qu'il n'y a plus de budget. Il y a plus de budget. Alors le problème d'argent pèse énormément. Donc on demande aux équipes de faire du gardiennage, de distribuer les traitements. On fonctionne vraiment qu'avec les traitements. On enferme de plus en plus, on met de plus en plus en chambre d'isolement, on attache les patients, on traite uniquement avec des médicaments. Voilà, c'est l'orientation qui est prise actuellement. Voilà, alors moi je dirais un peu sous-tendu par les labos. Pour qui c'est plus important de vendre les médicaments que plutôt qu'on développe des méthodes psychothérapiques, d'autres orientations qui étaient prises quand même jusqu'à présent par de nombreuses équipes. Voilà, donc on est étranglé au niveau des budgets pour faire des soins de qualité.
Et ça se décide au niveau de l'Agence régionale de la santé,
les budgets. L'Agence régionale de la santé qui donne toutes les orientations et auxquelles se plient les administrations hospitalières, avec plus ou moins d'adhésion d'ailleurs, parce que les directeurs ne sont pas forcément d'accord. Ils voient leur budget diminuer, je ne pense pas que ça leur fasse spécialement plaisir non plus. Il y a une espèce de rouleau compresseur de l'ARS, voilà, qui prend aussi ses ordres au ministère de la Santé.
Oui, parce qu'après, un directeur d'hôpital qui voudrait refuser, c'est juste qu'après, l'hôpital coulerait.
Voilà. Il n'y a aucun moyen de refuser. Donc voilà, on est tous pris là-dedans. Et nous, on essaye de défendre et notre pratique et nos patients.
On ferme des petites unités et on réouvre des gros services, notamment en pédopsychiatrie sur le CHS de la Savoie. Ce qui fait que certaines unités sont fermées, que du coup la sécurité sociale ne prend plus en charge les taxis et les soins s'arrêtent.
Ah oui, d'accord, voilà. Oui, donc il y a clairement des personnes qui sont en rupture de soins parce qu'elles
habitent trop loin. Tout à fait. Dans la mesure où, voilà, je veux dire, les gens n'ont pas forcément les moyens, je veux dire, d'avoir des voitures, de pouvoir conduire les enfants pour des prises en charge voilà, spécifiques.
Oui, et CHS, ça veut dire quoi ?
Centre hospitalier spécialisé.
Spécialisé, donc ça, c'est
en Savoie, c'est donc la psychiatrie. Voilà, tout à fait.
D'accord.
Alors après, il y a effectivement d'autres appellations. On a établissement public EPSM de santé mentale. Enfin, il y a beaucoup d'appellations et des structures qui sont peut-être un peu plus d'ordre privé que public. Mais là, c'est effectivement un rassemblement de toute façon régional, hein, ici, aujourd'hui. Voilà. Ce qui est, je veux dire, assez une particularité. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait auparavant au niveau, je veux dire, d'un mouvement de grève, quoi. C'est vraiment spécifique à la psychiatrie. Et moi, c'est la première fois que je rencontre ça dans ma longue carrière d'éducatrice avant et de documentaliste maintenant.
Et en Savoie, il y a aussi des suppressions de lits ?
Bien forcément. Donc, il y a une fermeture de 28 lits, une unité. Il était question d'une seconde fermeture, mais bon.
C'est plus supportable, c'est plus possible. On ne peut plus travailler. On fait des sorties prématurées. On a des patients qui décompensent tout de suite. On a même eu un suicide il y a 2 semaines d'une patiente sortie juste avant. C'est plus supportable. Donc on a toutes les raisons d'être ici pour manifester notre colère. Voilà.
Oui, dans le même temps, il y a une injonction de diminuer les lits d'hospitalisation. Donc on jette dehors des gens qui ont été qui sont hospitalisés depuis très longtemps. On essaye de trouver tout un tas de formules pour vider les lits des hôpitaux, on les diminue et donc il y a une espèce d'injonction de baisser de façon drastique le nombre de lits. Par exemple, dans le nord de Rome, on doit diminuer de 50 lits les hospitalisations, c'est énorme. Hein. Et c'est un peu partout comme ça. Alors c'est complètement paradoxal avec une période où on n'a jamais tant interné les gens. Les gens qui s'agitent un petit peu en ville ou qui arrivent un petit peu agités dans les hôpitaux, soit amenés par la police, soit voilà, sont immédiatement contenus. Donc ils sont traités comme des grands malades. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sous produits, voilà, qui prennent des toxiques. On a des agitations, et il y a quelquefois des gens simplement qui ont bu ou je sais pas, ou des gens qui pètent un peu les plombs et ils se retrouvent à l'hôpital. Ils sont orientés en psychiatrie avec des mesures de placement. Donc on n'a jamais vu autant d'hospitalisations sous contrainte. Les hospitalisations sous contrainte se multiplient. Et dans le même temps, on diminue le nombre de lits, on diminue le nombre des soignants dans les services. Donc on aboutit à une situation qui est totalement de crise et on ne sait pas ce que ça va donner. Dans l'avenir, on ne sait pas ce que ça va donner.
Oui, parce que les personnes qui vont elles-mêmes vouloir être hospitalisées parce qu'elles seront en souffrance psychique, mais peut-être plus de la dépression.
Là, il y en a de moins en moins. Oui. Et en même temps, alors on prétend faire plein de choses sur l'extérieur, mais les moyens ne sont pas donnés. Donc ça veut dire qu'on supprime les lits sans contrepartie. Il n'y aura pas du tout de prise en charge, je vous expliquais la sectorisation. Donc au plus près des populations, sans hospitalisation, ça on le réalisait constamment. Il y avait de la prévention, du suivi qui se faisait sans hospitalisation. Alors l'ARS prétend développer ses prises en charge, mais en même temps diminue les budgets. Donc c'est une façon d'annuler quand même cette orientation qui aurait pu être intéressante hein, quand même si on voulait renforcer le travail sur l'extérieur. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les faits, c'est on supprime les budgets. Voilà.
Et vous êtes en lien avec les autres départements, les autres régions?
Ben là, on est en lien. Alors là, on est CGT. Il y a un collectif national de psychiatrie qui est composé de collectifs régionaux qui se regroupent voilà, pour travailler au niveau national sur la psychiatrie. Et ici, il y a un collectif régional qui existe, voilà, Rhône-Alpes. Il y a un peu Auvergne, mais on est un peu très loin, donc il n'y a pas trop de lien avec l'Auvergne, mais en Rhône-Alpes, il y a un collectif de psychiatrie qui regroupe Lyon, Grenoble, Chambéry, Valence, Annecy, Saint-Étienne. Voilà, et Priva.
Lutte sociale à l'hôpital, du fric pour la santé, paf, et pas pour les banquiers. Et lutte sociale à l'hôpital, du fric pour la santé, et pas pour les banquiers. Et lutte sociale à l'hôpital, du fric pour la santé et pour les sans-papiers. À l'hôpital.
Et voilà donc un petit retour du rassemblement qui a eu lieu dans le cadre de la grève régionale organisée par la CGT à Lyon mardi. Et c'était dans le cadre d'un mouvement national pour la psychiatrie. Donc on l'a entendu, hein, le but c'était en effet d'obtenir des moyens financiers supplémentaires pour tous les services qui dispensent des soins en santé mentale, qui sont donc durement touchés par des baisses de budget, puisque voilà, aucun budget ne, enfin tous les budgets vont rester sans augmentation, et du coup comme d'autres charges augmentent, et ben on imagine que ça implique forcément la diminution de moyens un peu comme partout. Et il y avait donc une demande des syndicats qui était aussi de dire que des économies étaient réalisées par les nombreuses fermetures de services en intra-hospitalier, et du coup ils auraient voulu aussi que ces économies soient redistribuées sur les structures qui existent maintenant en extra-hospitalier, ce qui est pas mal favorisé ces derniers temps, et aussi que les représentants des personnels puissent assister aux conférences régionales et territoriales au sein desquelles se construisent les plans régionaux de santé, les plans territoriaux, etc., et qu'ils puissent y assister pour avoir un peu leur mot à dire en tant que professionnels de terrain. Voilà en gros, mais du coup je pense qu'ils ont tout dit dans le reportage.
Et les instits luttent aussi. Alors donc, comme notre tentative d'insert téléphonique était un gros échec, comme souvent, mais pas toujours, mais des fois, Du coup, je vais moi-même vous raconter ce que la copine qu'on a essayé d'appeler aurait pu nous raconter en live. Donc, juste pour faire un petit résumé, il y a quelques semaines, on a invité quelques instituteurs, institutrices de l'école primaire de Vormelin, qui étaient en lutte à cause des mesures que Macron a un peu imposées à la va-vite, un peu en scred pendant l'été, qui prévoit des classes CP à 12 élèves, mais du coup qui ont plein de répercussions sur l'organisation des équipes disciplinaires, notamment les professeurs supplémentaires n'existent plus dans l'agglomération lyonnaise, parce que du coup c'est ces profs-là qui sont mobilisés pour les classes de CP à 12. Et en gros, l'autonomie des équipes à choisir, par exemple, de faire des classes multiniveaux, de s'organiser, de faire des projets alternatifs, et ben ça n'existe plus. Et l'inspecteur de l'Académie de Lyon est particulièrement rigide sur tous ces aspects. Il y a quelques semaines, du coup, le jour de la rentrée, c'était le 4 septembre, du coup, il y a eu grève de plusieurs écoles de Vormelin. Ils sont allés à l'académie, ils ont rencontré l'inspecteur pour lui faire part de ses inquiétudes, et l'inspecteur, il a dit « c'est comme ça, c'est très bien ». Donc la lutte évidemment continue, il y a eu plusieurs AG, et du coup aujourd'hui il s'est passé plein de choses. Donc l'inspecteur, il devait visiter une école de Vormelin mardi prochain, en théorie, une école maternelle qui applique la pédagogie Montessori et Freinet. Du coup, c'était un peu une action médiatique pour en montrer qu'il s'intéresse aux pédagogies alternatives. Et du coup, évidemment, les enseignants et enseignantes de cette école-là, qui sont en première ligne dans la lutte pour protéger leur autonomie disciplinaire et l'intérêt de leurs élèves, et ils ont organisé un rassemblement. Ils ont mobilisé les parents et ils se sont dit, mardi, ça va être génial, on va être plein et on va demander à l'inspecteur de nous entendre. Et pas juste d'écouter une délégation, mais de tous et toutes nous entendre. Et le problème, c'est que l'inspecteur, il a entendu parler de ça, évidemment, parce qu'il s'est dit, oulala, mais je ne vais pas y aller. Je vais plutôt y aller vendredi. Et comme vendredi, l'école où je devais aller, ils ne sont pas là, ils sont en sortie scolaire. Je vais aller dans une autre école où il n'y a pas Montessori, il n'y a pas Freinet, ce n'est pas grave, genre peu importe. Et donc, quand même, les enseignants et enseignantes, ils se sont remobilisés très très vite, avec très peu de préavis. Ils sont arrivés à mobiliser des parents d'enfants aussi. Et donc, aujourd'hui, ils étaient une cinquantaine dans les couloirs de l'école où l'inspecteur était en rendez-vous avec les secrétaires, les gros chefs, voilà. Et ils attendaient dans les couloirs tout près avec leurs revendications et des petits tracts, etc. Et en fait, ils faisaient du bruit, ils chantaient tout ça. Et l'inspecteur, il a eu un peu peur. Donc, apparemment, il y a la secrétaire qui est sortie avant lui pour lui ouvrir toutes les portes. Et lui, il est parti la tête basse. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a rien dit aux gens qui étaient là pour parler avec lui et pas spécialement pour lui jeter des choses dessus. C'était vraiment pour être entendu et pour discuter de qu'est-ce qu'on fait à l'école et comment on le fait. Et du coup, refus total de dialogue. Donc évidemment, toutes les personnes qui étaient rassemblées là-bas étaient un peu déçues. Mais bon, du coup, ça nous paraissait important de raconter cet épisode qui montre comment on arrive à discuter avec nos chefs pour faire changer les choses. Donc, pas du tout.
L'invisible est disponible, libre et irréductible.
Canu, info.
L'invisible est disponible, libre.
As-tu féministe?
Nous sommes fiers, et féministes et solidaires et en colère.
Canu Info du vendredi.
Alors, tout peut dire avec Valérie.
Donc, aujourd'hui, 28 septembre, c'est la journée internationale pour le droit à l'avortement, donc la date elle n'est pas choisie au hasard. Il y a énormément de rassemblements partout en France et dans plein de pays européens pour demander le droit à l'avortement pour toutes, dans de bonnes conditions. Et du coup, à Bruxelles, en ce moment, on a des délégations de chaque pays européen qui sont devant le Parlement européen pour remettre une pétition sous couvert de rentabilité, on ferme les centres d'IVG autonomes dans les hôpitaux. Donc on se retrouve avec des services d'orthogénie qui sont au milieu de la gynécologie ou au milieu de services où on peut croiser des femmes qui font des fausses couches, des femmes qui viennent pour un rendez-vous pour leur grossesse et des femmes en demande d'IVG. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer parce que oui, l'acte d'IVG, c'est pas rentable. On a des délais de rendez-vous qui peuvent être très longs et disparates selon les territoires. Donc on peut avoir des situations où des femmes sont dans les délais pour pratiquer les IVG, mais qui, comme elles ne trouvent pas de rendez-vous en France, sont obligées d'aller à l'étranger pour avorter alors qu'elles sont dans les délais légaux. Et ça, faute de place dans les hôpitaux.
Voilà, c'était donc un petit retour sur le rassemblement qui a eu lieu hier, donc comme il a été dit, dans le cadre de la Journée mondiale pour le droit à l'avortement. Donc il y avait des rassemblements comme ça organisés un peu partout en France, mais en fait aussi en Europe. Dans le Rhône, c'était à l'appel du collectif de défense de l'IVG qui rassemble plusieurs associations, organisations syndicales et politiques locales. Du coup, qui voulait se mobiliser pour le droit à l'avortement en Europe, aussi pour dire un peu, souvent on dit que en Europe, les droits des femmes, l'égalité homme-femme et tout, ça va, c'est cool, on est vachement en avance. Et puis finalement, c'était un peu pour dire, non, pas tant que ça, il y a quand même pas mal de disparités. Il y a pas un peu bizarre ? Pardon, non, c'est bon. Il y a quand même pas mal de disparités. Puis l'accès à l'avortement n'est pas aussi facile qu'on veut nous le faire croire, comme ça vient d'être dit par la responsable du planning de Villeurbanne, là, qu'on a entendu tout à l'heure parler. Et puis plus globalement, en Europe, pour refaire un petit rappel, il y a quand même 5 pays qui n'autorisent pas l'IVG, sauf circonstances exceptionnelles. C'est le cas en Pologne, où l'IVG est permise uniquement dans le cas de viol, d'inceste ou de malformation fœtale du fœtus grave. C'est le cas, pareil, à Chypre, en Andorre, en Irlande, où l'avortement est permis uniquement s'il y a un risque pour la femme ou s'il y a un risque pour le fœtus, et ça doit être justifié par deux médecins. Et puis, c'est interdit également à Malte. Dans ces pays, les peines encourues, elles peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison pour la femme, mais aussi pour le ou la médecin qui a pratiqué l'IVG. Et puis, du coup, outre là, ces pays où c'est complètement interdit, les pratiques, elles sont assez disparates en fonction des pays. Et c'était aussi une demande de faire cette journée mondiale et de mettre en avant aussi sur l'Europe. C'était de dire, il y a quand même des pays où c'est plus avancé que d'autres. Et du coup, ça serait bien que tout le monde soit aligné, bien sûr, sur les pays les plus avancés. Et il y a aussi, par exemple, en Finlande, où l'IVG est légale que avant 17 ans ou après 40 ans ou que si la femme elle a déjà 4 enfants, enfin il y a quand même plein de clauses comme ça. Et en Italie aussi où l'IVG est légale, mais en fait il y a plein de femmes qui se le voient refuser à cause de la médecin qui se disent objecteurs de conscience et qui du coup refusent de pratiquer les IVG. Et ça apparemment c'est vraiment beaucoup beaucoup le cas et c'est super galère pour les Italiennes d'accéder à l'IVG. En France on l'a entendu, c'est le cas notamment à Lyon sur les histoires de délais, de choix. On nous fait croire que on peut aller jusqu'à 14 semaines, on peut avoir le choix et tout ça. Et en fait, comme il y a de plus en plus de restrictions et que comme il y a moins de services qui sont disponibles, souvent on n'a pas tant le choix que ça. Et c'est plutôt comme le service peut nous proposer, on est obligé d'accepter ça. Et du coup, on nous dit à la fin, c'est bon, vous avez pu avorter et puis voilà, venez pas vous plaindre. Sauf que les conditions de choix ne sont pas respectées. C'est le cas quand même souvent en France. Donc voilà, ce rassemblement à Lyon, il y avait, peut-être 200 personnes, quelque chose comme ça. Et puis, ça a été le cas dans plusieurs villes. Et je pense qu'il y aura d'autres rassemblements comme ça à venir et on vous tiendra au courant.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestins.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border, no nation, stop the population, solidarité, pas de merde. No nation, no border, fight
no border.
Et aujourd'hui, pour la rubrique migration, on a un invité spécial qui travaille au quotidien avec des demandeurs et demandeuses d'asile et qui va un peu nous parler de l'accueil de ces personnes. Du coup, bonsoir. Que tu veux te présenter
Oui, Francesca, je m'appelle Louise. Je suis donc intervenante sociale dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile, ici en région Rhône-Alpes.
Ok. Et bah, c'est quoi un centre d'accueil des demandeurs d'asile ?
Alors, c'est une structure qui a une convention avec l'État, parce que les demandeurs d'asile dépendent du droit de l'État. Ce n'est pas aux communes d'assumer les besoins des demandeurs d'asile, c'est à l'État. Donc, on a une convention quinquennale qui permet donc d'avoir un budget pour faire tourner cette structure, dans laquelle il doit y avoir des travailleurs sociaux professionnels. Et ensuite, d'autres travailleurs, juristes, administratifs... gestionnaire, voilà.
D'accord. Et du coup, c'est une structure qui est gérée par une association, par une entreprise, ou est-ce que c'est l'État qui gère directement
Adoma, pour qui je travaille, est une société d'économie mixte qui est rentrée dans un gros conglomérat beaucoup moins mixte, beaucoup plus financier, qui s'appelle la SNI. Et donc, les autres sont de petites associations, de grosses associations. Sur Lyon, vous avez Forum Réfugiés, vous avez le Diaconat Protestant à Valence, vous avez Pierre Valdo dans la Loire, vous avez Evo. Il y a aussi des petites associations qui ne connaissaient pas la manne que cela représentait, qui y ont vu et qui s'y engouffrent maintenant, puisque l'État se désengage de plus en plus.
D'accord, donc il délègue à d'autres organismes l'accueil de ces personnes-là. Du coup, tu parlais tout à l'heure, tu m'expliquais que les centres d'accueil des demandeurs d'asile, les CADA, ce n'est pas les seuls types de structures qui existent pour héberger les demandeurs et demandeuses d'asile. Il y a plein de ramifications, de déclinaisons bizarres avec des lettres mélangées.
C'est cela.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que des fois,
donc,
on ne comprend pas.
Le CADA est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Les personnes sont orientées par l'Office de l'immigration, l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Et nous en référons soit au préfet de région, soit au préfet de département, pour que ces personnes soient orientées. Alors que monsieur XYZ qui habite chez son frère, parce qu'il y a la guerre en Somalie, peut faire la demande et rester encore chez son frère s'il est possible d'être hébergé là-bas. Ceux qui nous sont orientés n'ont pas le choix. Ils doivent venir. Sinon, après, ils n'ont plus l'aide de demande d'asile qui est l'ADA, 200 euros par personne par mois. C'est pour manger, rien d'autre. Hein. Voilà. Et donc, ces personnes nous sont orientées, nous en occupons. Et comment on s'en occupe ? Ça veut dire qu'il y a des personnes, soit qui parlent la langue étrangère, mais vous voyez bien, de par le monde, il y a tellement de mouvements. L'immigration ne date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été. L'homme a toujours bougé. Donc, on vous parle de migrants, mais ce sont des choses qui poussent les gens à migrer. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un quitterait son père, sa mère, ses références, ses repères, pour aller dans un pays où il ne connaît même pas la langue. Donc, ces personnes nous sont orientées et nous travaillons avec eux en tant que soit juriste, soit travailleur social, pour le temps que l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés apatrides, s'occupe de leur cas et décide qu'ils sont réellement en besoin de protection, selon la Convention de Genève. Donc, je vous passe tout ça, on en avait déjà parlé quand j'étais passée. Et on décline cela maintenant parce que comme l'État se désengage, on a d'abord fait les CADA où il y avait un salarié pour 10 demandeurs d'asile, que ce soit un administratif ou un gestionnaire ou un travailleur social. Puis on a trouvé que, bien, comme c'était des appels d'offres et que c'est un marché, maintenant nous parlons finance, le marché devenant plus juteux, on a commencé à avoir des marchés un peu moins intéressants puisque c'est un appel d'offres. Vous répondez, le moins 10 ans prend. Et nous sommes le premier opérateur de demandeurs d'asile en France. Adoma était l'ancienne Sonacotra qui couvre toute la France, tous les départements quasiment. Avant, on hébergeait les travailleurs migrants, algériens, tunisiens, africains, subsahariens. Maintenant, on fait dans la demande d'asile. Et les demandeurs d'asile ne sont pas tous colorés ni basanés, hein, méfiez-vous. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On fait maintenant des choses transitoires, pas pérennes, qu'on appelle AUDA, accueil d'urgence de demandeurs d'asile, après CUDA, centre d'urgence de demandeurs d'asile. Après, on a fait de telles déclinaisons qu'à la fin, on nous disait, en tant que salarié, on est sincèrement désolé, vous ne pouvez plus travailler à 1 pour 10 demandeurs d'asile, mais à 1 pour 20. Parce que vous ne faites pas la même chose. Lui, il est en urgence et vous, vous faites que du pérenne. Et puis après, on nous a dit, mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous pouvez faire pour 1 pour 25. Et là, on en est à 1 pour 40. Et il y a des sites très, très éloignés. Je ne vous dirai pas Montluçon, dans l'Allier. Je ne vous citerai pas d'autres coins à côté de Tours, où les gens travaillent à 1 pour 40 depuis tellement longtemps qu'ils pensaient que c'était la norme. Et pourtant, c'était des travailleurs aguerris. Et voilà les déclinaisons et comment l'accueil se fait au décliné moins bon jusqu'à pire.
Du coup, le mot urgence, il ne sert plus du tout à définir la situation des personnes, mais vraiment la qualité de l'hébergement. Du coup, on est dans un centre d'hébergement d'urgence parce que du coup, on a moins de suivi, on est moins aidé.
Et c'est là où le bas blesse. Quand on accueille quelqu'un en urgence, qu'il soit afghan, somalien, il faut qu'on le réoriente avant qu'il ne vous quitte. Tant qu'il n'est pas réorienté, vous ne le gardez pas au chaud. Le délai court, il faut qu'il fasse son dossier. Donc on travaille sur son dossier, sa biographie. S'il a des maladies, il a des besoins sanitaires, eh bien, il a ses ouvertures de droits, il suit ses soins. Donc on fait exactement le même travail dans un AUDA, un CUDA, un CHUDA, que un ATSA, que dans un CADA.
Parce que du coup, c'est quoi les missions des travailleurs et travailleuses sociales dans ces lieux ?
Dans ces lieux.
C'est quoi l'accompagnement qu'on propose ?
Voilà, donc on vous oriente une famille, vous allez la chercher à la gare, vous en connaissez la composition, c'est un monsieur persécuté pour son homosexualité à tel endroit, donc il arrive tout seul, il n'a personne, ou c'est une dame seule, le mari est mort, on voulait lui faire épouser son beau-frère, une petite fille qui doit être excisée, la maman n'a pas voulu. Donc voilà, pour X raisons, nous avons ces personnes-là, on va les chercher à la gare, on les installe dans une chambre du foyer à Doma, qu'entre-temps, on a réappelé résidence sociale. Bon. Les noms changent, le bâtiment ne change pas, mais le bâtiment vieillit. Donc on amène ces personnes et on leur dit, vous avez de la chance, vous avez un toit, on va vous aider pour votre demande d'asile. On l'installe dans une chambre et la plupart du temps, la chambre a de la moisissure. Mais on fait comme si on ne le voit pas. Mais malheureusement, ce sont des personnes qui, évidemment, regardent un peu partout. Ils sont dans un lieu nouveau et disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils disent, non, mais avec un petit coup de javel, ça va partir. Toutes les semaines, il faut mettre de la javel, quoi. Quand vous avez le temps. Alors, on avait le temps quand on était à 1 pour 10. Maintenant qu'on est à 1 pour 27, 1 pour 40, on n'a plus le temps. On leur dit, ben, on verra, on va trouver quelqu'un qui viendra nettoyer. Et on les installe. Puis le lendemain ou 2 semaines après, ils viennent nous voir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les cafards toute la nuit, il y en a de partout. Ça grimpe sur les gamins dans les berceaux. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on va faire quelque chose. Donc nous, pareil, hein, on fait appel à notre hiérarchie, qui fait appel à la hiérarchie. Puis ça se perd dans les méandres de la bureaucratie. Et il y a des punaises de lit. Alors les gens viennent vous voir le matin, on a des photos, vous avez honte. Des plaques rouges partout sur le corps, parce que la personne est plus allergique qu'une autre. Et voilà. Donc on a de tout. En fait, on a et les gens et les petits parasites que la maison a déjà d'avance.
Mais du coup, cette multiplication de types de structures, en gros, ça fait que les personnes qui travaillent avec les demandeurs et demandeuses d'asile, bah, du coup, elles ont aussi des conditions de travail qui sont plus compliquées, que les personnes qui sont accueillies sont moins bien accueillies. Et du coup, c'est un peu pour ça qu'au sein de votre organisation, vous vous mobilisez en ce moment.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de quelles sont vos revendications et comment vous vous organisez?
Moi, je suis déléguée syndicale à Sud. Et donc, Sud prône un accueil digne. Et l'accueil digne, cela signifie qu'on mette ces personnes qui, enfin, trouvent un havre pour se poser, est un lieu comme celui dans lequel vous aimeriez, vous, être introduit si vous êtes en besoin. Voilà. Et ce n'est pas souvent le cas. Les toilettes sont bouchées. Les éviers sont bouchés dans les cuisines. Comme je vous dis, les cafards et autres, c'est vraiment monnaie courante. Il n'y a pas un établissement à Doma où il n'y ait pas de cafards, ni de puces de lit. Qu'est-ce qui se passe? Je prends notre amie Francesca, par exemple, qui est intervenante sociale dans un CADA quelconque, qui a 10 personnes à s'occuper. Donc, elle fait la biographie, donc elle traduit, elle reçoit monsieur X fois, madame X fois, parce que ben, ce sont des faits très douloureux. Donc, on prend de la traduction, ça a des frais, ça a des coûts, et jusqu'à ce qu'elle soit convoquée à l'OFPRA, on lui prend son billet de train, on l'envoie à Paris, on lui explique le plus possible, en lui disant, voilà, il y aura telle personne en face de vous, dites tout ce qu'on aura à vous demander, répondez le plus honnêtement possible, voilà. Et puis, ne dites pas que Dieu vous a sauvé, parce qu'en France, ça passe pas toujours. Dieu ne sauve pas. Dites, il y a quelqu'un qui a payé les geôliers et qui m'ont laissé partir pendant qu'il y avait des rixes ou je ne sais quoi. Mais soyez le plus près possible de la réalité. Ça se passe ainsi. Maintenant, Francesca a 15 ans de maison, maintenant elle a 32 personnes à s'occuper. Donc quand ils arrivent, elle les mène à la chambre et dit, écoutez, je suis en bas, on me téléphone. Les personnes prennent possession du lieu comme il est. Ils reviennent la voir et disent, ben oui, j'ai rendez-vous, mais je vous prendrai que dans 3 minutes. Et 3 minutes, pas plus, parce que ben, j'ai déjà d'autres rendez-vous. On est tellement indisponible que les gens ne se sentent plus dans un havre de paix. C'est pas des phobies, mais c'est quand même leur mal-être augmente. Avant, on avait le temps de travailler avec des partenaires médicaux. Là, c'est le désert. On n'a plus le temps. On fait que dans l'urgence. Des collègues qui craquent, alors on va vous dire, mais c'est parce qu'ils ont d'autres raisons. Notre patron a toujours d'autres raisons. Hein. On ne craque pas à cause du travail un peu en trop. On a des gens qui ne craquent pas, mais qui n'arrivent plus à travailler. Ils sont au travail, mais qui sont mal. Et on voit en face de nous des gens qui sont très violents. Très, très violents parce qu'ils n'ont pas d'oreilles pour les écouter. Voilà ce pourquoi nous, on se bat, on milite. Les collègues ont fait des lettres ouvertes à la direction, X fois, ça ne débouche sur rien. Ils répondent, nous avons comme valeur vos conditions de travail, nous y veillons. En quoi faisant ? Quelqu'un part en congé maternité, à temps plein, il est remplacé à 3/4 temps. Le 3/4 temps s'en va, il est remplacé à mi-temps. Je ne sais pas si je réponds à vos questions, je suis très émue parce que c'est quelque chose qui me touche de voir des jeunes de 30 ans en burn-out ou en inaptitude sur leur poste.
Est-ce que vous avez prévu des grèves ou des actions qui pourraient être médiatisées par exemple ?
Nous avons prévu des grèves, nous faisons les grèves que font Solidaire, que font la CGT, toutes ces grèves pour ces lois qui réduisent le pouvoir de tout le monde.
Eh ben, merci beaucoup, je suis désolée, on n'a pas plus de temps que ça, mais on t'invite à revenir à la radio quand tu veux pour nous donner des nouvelles sur les luttes à demain, mais aussi dans tous les autres centres d'accueil pour demandeurs et demandeuses d'asile. Et on rappelle aussi que là, on parle d'accueil de personnes qui demandent l'asile, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui demandent l'asile, mais qui en fait n'ont pas des solutions d'accueil, qui restent à la rue parce qu'en fait il n'y a pas assez de place, notamment si on n'a pas des gravissimes maladies, si on n'a pas 4 enfants de moins de 3 ans, souvent on ne se voit pas proposer une solution d'hébergement et du coup voilà, c'est l'accueil de demandeurs et demandeuses d'asile en France effectivement assez tragique en ce moment.
Est-ce que j'ai le droit de cramer 2 minutes en posant une question ou pas ?
Bah tout à fait.
Ouais. Alors, bonsoir. C'était juste un tout petit peu pour revenir sur les logiques en fait de l'accompagnement du coup chez Adoma. J'ai pu entendre parler de choses qui, du coup, l'idée était de, on est tellement pris par le travail, tellement pris par l'urgence qu'à un moment en fait la hiérarchie dit qu'il faut choisir très clairement ce qu'on fait. Et donc par exemple aller chercher une personne à la maternité, ben c'est pas la peine quoi, qu'il faut qu'elle rentre en bus parce qu'il faut pas l'habituer en fait quoi, à ce qu'on puisse la ramener en voiture, ou à l'inverse un monsieur qui vient de se faire opérer, pareil quoi, du coup ben, on peut pas le ramener en bus, ou un travailleur social ou une travailleuse sociale qui va passer 20 minutes à construire un salon de jardin pour que l'endroit soit un tout petit peu plus accueillant, on lui dit mais pourquoi t'es pas en train de travailler quoi.
C'est totalement vrai, puisque nos cadres ne sont pas toujours formés. C'est un choix de la direction de prendre les moins formés pour qu'ils soient redevables et malléables. Ceux qui sont formés s'en vont assez rapidement. Est-ce que ça répond à la question ?
Non, mais...
Oui, oui. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas nos fonctionnements, parce qu'on ne peut pas inspirer la confiance de quelqu'un quand il vous dit « j'ai faim », vous lui dites « j'ai rien à faire, j'ai fini mon temps de travail, je rentre chez moi ». Le lendemain, vous ne pouvez pas travailler avec.
Eh ben, merci beaucoup pour être venu ce soir au Canut Info du vendredi.
C'est toujours un plaisir.
Eh ben, merci beaucoup, oui. Et franchement, revenez quand vous voulez, parce que moi, je trouve que c'est vraiment bien contre le discours médiatique ambiant d'avoir un vrai retour sur comment ça se passe sur le terrain, les difficultés, et en fait, toute la politique qui est vraiment atroce de non prise en compte des besoins humains et urgents et non urgents.
des personnels comme des personnes qui sont reçues. Et on avait envie, alors qu'on ne vous en a pas parlé dans le fil d'info, de vous faire quand même un petit retour, parce qu'on a appris pendant ce Canu Info qu'il y avait une action surprise à Pôle emploi aujourd'hui, une action chantée. Du coup, on avait envie de vous en parler deux minutes avant de passer au national. Et donc, quoi vous dire ? Quelques personnes participant au Front Social ont occupé momentanément l'espace de l'agence Pôle emploi Lyon-Part-Dieu ce vendredi matin pour une action chantée de sensibilisation aux changements imposés par la loi travail, à la fois pour les chômeurs chômeuses et pour les employés de Pôle emploi. Quatre pancartes, deux chansons, quelques tracts pour expliquer. La gestion du chômage, jusqu'à présent confiée à un organisme paritaire, l'UNEDIC, sera transférée à un contrôle total de l'État. Ce même financement, jusqu'à présent assuré par les cotisations salariales et patronales, sera supplanté par l'impôt. Le montant de l'indemnisation calculé jusqu'à présent en proportion du salaire sera maintenant une indemnité forfaitaire, type RSA, soumise à l'obligation d'accepter n'importe quel emploi à partir de la deuxième offre. En prime, Macron promet une baisse des effectifs des employés de Pôle emploi et des contraintes supplémentaires pour les chômeurs et les chômeuses. L'impact de ces nouvelles attaques contre la protection sociale des plus démunis a pour conséquence de mettre tout le monde dans la rue, salariés ou non. Parce que ces mesures antisociales ont un impact global, elles impliquent une riposte unitaire sans concession et non sectorielle ou corporative. En attendant de faire du 10 octobre une journée unitaire, du 10 octobre et pas que, et moi je trouve que c'est vachement bien aussi que corporativement on ait aussi des exemples de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, dans le monde du travail ou non. La multiplication d'actions ponctuelles et d'initiatives créatives ou non permet de ne pas s'endormir entre les deux tours des rendez-vous syndicaux. Donc si vous croyez être trop petit pour pouvoir changer les choses, essayez donc de passer la nuit avec un moustique, vous verrez qui empêche l'autre de dormir. C'est la petite phrase d'histoire du Front Social et de l'Assemblée Lutte qui vous rappelle qu'ils se réunissent toutes et toutes tous les mercredis à 18h Bourse du Travail, que les actions n'ont qu'à se multiplier pour lutter contre Macron et son monde.
Canu Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et du coup, dans la rubrique nationale, on va vous parler d'état d'urgence. Enfin, la semaine dernière, on vous parlait d'un lapsus fait par Emmanuel Macron lors d'un discours à New York où il a déclaré que la France allait bientôt sortir de l'état de droit. Voilà, c'était magnifique. Mais bon, là, on se rend compte qu'au-delà du lapsus, on est un peu effectivement en train de glisser vers un état de non-droit assez flippant. Et notamment grâce au projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure. Ça, c'est la formulation officielle. Et ça, du coup, c'est un texte qui a été voté au Sénat en juillet et puis qui est là cette semaine en examen. Alors du coup, ces lois, c'est assez simple, c'est toutes les mesures liberticides de l'état d'urgence qui entrent dans le droit commun. Enfin pas tout à fait, il y a des espèces de petites modifications pour que ça passe un peu mieux, des petits changements de nom. Alors je vais pas tout vous détailler parce qu'on va pas avoir le temps, mais par contre il y a un article, enfin moi je me suis pas mal, j'ai croisé plusieurs articles, mais il y a un article du Monde qui a été publié hier soir qui permet d'y voir un peu plus clair. Et du coup, bah, on peut déjà voir que la loi permet la possibilité pour les préfets de mettre en place un périmètre de protection pour restreindre la circulation et l'accès des personnes, donc pour les grands événements type concerts, etc. alors que quand même la liberté de circuler est supposée être une liberté élémentaire. Il y a aussi les assignations à résidence qui sont pas mal discutées et dont on a pas mal entendu parler dans les médias parce que il y a quand même une petite nouveauté par rapport aux assignations de l'état d'urgence, c'est que les gens ne vont pas être obligés de rester chez eux mais pourront se promener dans leur commune, donc sortir de chez eux mais quand même pointer tous les jours dans un commissariat. Donc c'est vrai qu'on a entendu pas mal le fait que c'était bien parce que c'était moins pire que les mesures de l'état d'urgence, mais en fait le fait d'insister quand même beaucoup là-dessus, ça fait oublier qu'en réalité c'est quand même assez grave que l'assignation à résidence soit maintenant inscrite, enfin risque là d'être rapidement inscrite dans le droit commun parce que c'est quand même une atteinte radicale à la liberté des personnes soupçonnées. Ensuite, donc dans l'état d'urgence, il y avait la perquisition administrative. Et là, du coup, ils ont trouvé un joli petit nom. Ça s'appelle maintenant les visites domiciliaires. Donc voilà, ils ne vont plus vous faire une perquisition, mais ils vont vous visiter. Voilà, donc durant ces visites, par contre, ils ont des pratiques assez étranges. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des saisies, ils récupèrent les données numériques des ordinateurs et des téléphones portables. Voilà, donc de drôles de petites visites qui vont maintenant être assez régulières. Hein. Donc en fait, l'Assemblée nationale, on a dit que pareil, a dit que c'était beaucoup mieux que dans le cadre de l'état d'urgence parce que c'était quand même maintenant obligé de demander à un juge avant de faire une perquisition. Sauf que en fait, ce dont on se rend compte et qui a été vraiment déclaré par plusieurs avocats, c'est que les juges acceptent la plupart du temps les perquisitions. Donc en fait, ça va pas changer grand chose par rapport à ce qui s'est pratiqué là ces derniers mois durant l'état d'urgence. Et du coup, en fait, la plupart du temps, il y a les renseignements qui disent juste qu'une personne est en train de se radicaliser ou est radicalisée ou en processus de radicalisation, et ça suffit souvent aux juges. Enfin, ils ont que ça comme élément pour dire bon bah ok, du coup il faut faire une perquisition chez eux. Donc voilà, ça aussi c'est vraiment la porte ouverte à aussi toutes les discriminations. Donc il y a aussi le contrôle des déplacements à l'aide de bracelets électroniques, comme pendant l'état d'urgence. Le contrôle aux frontières, donc avec un renforcement des possibilités de contrôle aux abords des gares et à l'intérieur de l'espace Schengen. Du coup, on a aussi le problème de la fermeture des lieux de culte. Donc, à chaque fois que les propos qui y sont tenus, les idées ou les théories qui y sont diffusées ou les activités qui s'y déroulent provoquent à la discrimination, à la haine, à la violence, à la commission d'actes de terrorisme en France ou à l'étranger, ou font l'apologie de tels agissements ou de tels actes. Donc maintenant, le projet de loi ne requiert plus qu'un juge vérifie que les propos en question provoquent effectivement à la discrimination, la haine ou la violence. Donc là, c'est pareil, c'est très flou et ça laisse vraiment la porte ouverte à toutes les injustices. Il y a aussi la surveillance de la communication qui est vraiment grave avec le fait qu'une personne suspectée aura l'obligation de donner à la police ses identifiants, son mot de passe, etc. pour tous ses comptes internet. Donc voilà, en résumé, c'est vraiment une loi régressive qui est en train d'être discutée à l'Assemblée et qui va complètement à l'encontre des principes de protection de liberté publique et de respect de la vie privée. Et elle ouvre les portes à tous les abus policiers et permet donc à l'État, par l'entremise des préfets, d'atteindre radicalement à la liberté des personnes pour de simples soupçons, on le rappelle. Et puis voilà, tout ça grâce à l'excuse magique de la lutte contre le terrorisme, alors même qu'on sait que ces mesures qui ont été mises en place pendant l'état d'urgence ne sont pas si efficaces contre le terrorisme et qu'elles ont surtout servi à faciliter la répression de la population en général, des militants, des musulmans souvent aussi, et autres minorités discriminées. Donc, c'est pour ça que c'est pas des perspectives extrêmement réjouissantes. Et c'est vraiment l'inscription dans le droit commun de plein de choses qui ont été mises en place normalement à titre provisoire. Et du coup, ça donne envie de se renseigner plus sur les abus qui ont été faits justement pendant l'état d'urgence pour voir un peu comment en fait ces lois sont utilisées et interprétées par la police. donc, et par les préfets. Pour ça, vous pouvez regarder, il y a pas mal de choses. Il y a Amnesty qui a publié un rapport assez complet. Et puis, depuis peu, là, sur rébellion.info, il y a aussi une brochure dans laquelle il y a pas mal de témoignages de personnes qui ont été assignées à résidence, etc., à cause de, de cet état d'urgence. Du coup, ça permet aussi un peu de mettre de la chair aux chiffres, comme je ne sais plus qui dit.
Eh ben, merci beaucoup. Et c'est assez tétanisant, en fait, tout ce que ces lois mettent dans le droit commun, comme tu dis. Mais comme ça, au-delà du droit commun, il y a déjà tout ce qui est admis et non sanctionné par l'État et la justice, et notamment énormément d'assassinats de la part des forces de l'ordre, plus ou moins déguisés, plus ou moins directs. Sans en faire une chronique peut-être pérenne, on a envie de vous les rappeler quand même de manière assez régulière. Et aujourd'hui, par exemple, on va aller tout d'abord du côté du Var, où par exemple, ce mardi 26 septembre, à Draguignan dans le Var, la police a utilisé ses armes et a battu un homme de 55 ans, alors que celui-ci devait être expulsé de son logement. Selon le procureur Ivan Auriel, il aurait ouvert le feu et blessé un commissaire avant d'être tué. Cette expulsion était le fruit d'une décision de justice, et le concours de la force publique avait été autorisé pour procéder à son application. C'est-à-dire que l'huissier, accompagné de forces de l'ordre, pouvait contraindre les locataires à quitter leur logement. C'est ce qu'il se passe généralement en cas de contentieux d'impayés ou de résiliation de bail et que les parties en présence ne sont pas d'accord. Selon l'expression de la plupart des médias, qui reprennent l'AFP, cette expulsion a mal tourné. Défendre sa maison, les armes à la main, n'est en effet pas banal, tout du moins en France. Et nous ne sommes plus autant des grandes grèves de loyers ou des autoréductions collectives où l'on résistait farouchement aux expulsions. Par ailleurs, d'autres personnes sont déjà mortes du fait d'expulsions locatives. À Villejuif en octobre 2016, à La Rochelle en octobre 2014, à Vénissy en avril 2013, à Cugneux en octobre 2010, à Istres encore en septembre 2008 et d'autres. Mais ces fois-ci, les expulsions n'ont pas mal tourné. Ces morts étaient de simples suicides. Je cite toujours la presse dominante. Cette fois-ci, à Draguignan, le canon de l'arme était tourné dans l'autre sens. Il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que ce n'était qu'une question de temps avant que ce genre de choses ne se produisent. Lorsque l'on joue et lorsque l'on spécule sur le désespoir des gens, il n'est pas étonnant que certains et certaines se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. De façon assez symptomatique, tant que le toit à la propriété primera sur celui au logement, il n'y a aucune raison que la tendance s'inverse. À moins que l'on ne croie les déclarations d'intention de Macron et son gouvernement, il y a fort à parier que ce genre de situation se reproduira à mesure que, comme d'habitude, certains et certaines deviendront de plus en plus pauvres et d'autres de plus en plus riches. Les récentes réformes sur le droit du travail, sur la baisse des APL, sur une nouvelle politique du logement, ne font pas vraiment pencher la balance dans le sens de la justice sociale.
Et puis des personnes qui meurent, des personnes qui se révoltent, c'est aussi arrivé à Aulnay récemment, ainsi ça brûle à Aulnay-sous-Bois après la mort d'un jeune homme. Et donc le calme n'est toujours pas revenu, Aulnay-sous-Bois, ça fait quelques jours maintenant que le quartier de Savigny vit des nuits agitées, avec des violences qui opposent des habitants à la police. Deux jours plus tôt, donc en gros dimanche dernier, une vingtaine d'incendiaires ont brûlé au moins 6 véhicules et s'en sont pris à 2 écoles de la ville, notamment une maternelle dans laquelle une salle de bibliothèque a été complètement incendiée et le bureau du recteur partiellement brûlé. À l'école primaire, une fenêtre de la classe a été brisée pour propager du liquide inflammable. Donc à l'origine de ces violences, le décès d'Yacine, 24 ans, il a été retrouvé sans vie le 14 septembre dans la cave de son immeuble, situé dans le quartier de Savigny, dans des circonstances troubles. Face contre terre, le pantalon baissé, une barre de fer sous son corps. Dans un communiqué de presse publié le 15 septembre, le parquet de Bobigny indique que l'autopsie, je cite, « n'a pas révélé de traces de coups susceptibles d'entraîner le décès et conduit à écarter l'hypothèse d'une mort violente ». Le lendemain, il a fait savoir qu'un analyse toxicologique, je cite à nouveau, a révélé la présence d'une cocaïne à un taux très élevé, compatible avec un décès par surdose. Les proches de Yacine soulignent plusieurs zones d'ombre dans cette version officielle et réclament une nouvelle autopsie. Ils relèvent notamment des hématomes sur le visage qui ressemblent à des traces de coups. Je cite le frère de Yacine Bilel, quand on nous ment outrageusement, on nous dit qu'il a juste une trace sur le front et ensuite, quand vous voyez son visage, ça n'est pas normal. On n'accuse personne, on voudrait juste savoir, pouvoir faire la contre-autopsie pour que tout le monde connaisse la vérité et que ma mère puisse faire son deuil. La manière dont l'enquête a été menée me dérange, poursuit-il. Les enquêteurs concluent tout de suite à l'overdose, ils font une perquisition chez nous. La scène de crime a été laissée ouverte et sans surveillance, ce qui n'a pas permis de préserver les indices éventuels. Pour déposer une plainte pour homicide volontaire contre X, ça n'a pas été un parcours du combattant pour Bilel, qui a dû passer par les commissariats de Bobigny, d'Aulnay, de Montreuil, de Sevran, et il a finalement réussi à déposer plainte à Aulnay. Alors une fois de plus, c'est un jeune de 24 ans dans un quartier populaire qui meurt. Une fois de plus, il y a des flous complets du point de vue policier et judiciaire. Une fois de plus, la révolte gronde et la police réprime ceux qui s'émeuvent de la mort d'un proche. Et une fois de plus, on va rappeler que on ne pardonne pas, on n'oublie pas.
Et une fois de plus, on n'a pas le temps de faire l'agenda. On aimerait quand même vous dire que ce soir, vous pouvez vous rendre en soutien à Bure à Villeurbanne et que pour ça, il faut vous rendre sur le site rebellion.info où vous pouvez trouver toutes les informations pour savoir où est-ce que c'est exactement. Que demain, vous pourrez traîner à partir de 15h à côté du librairie de la Griffe pour aller à une rencontre débat autour du livre Les Naufragés de Perrache. Qu'en même temps, demain, qu'est-ce qui se passe? Un rassemblement international contre les politiques migratoires. Que vous trouverez de 16 à 18h place des Terreaux. Qu'en même temps, toujours, mais à ce moment-là, le 30 séquences, c'est demain aussi, il y a une discussion sur la case du code du travail et le pot de rentrée de la CGA à partir de 17h, plutôt ça sur les pentes de la Croix-Rousse. Bon, bah écoutez, on vous invite à regarder le site rebellion.info pour l'agenda. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, paniquez pas,
niquez tout.